Dans le calendrier Apple, la période estivale est synonyme de bêta. Cupertino a dévoilé une fournée de nouveaux systèmes lors de sa traditionnelle WWDC qui a eu lieu au début du mois. On a pu y découvrir une révision pour WatchOS, iOS, iPadOS, VisionOS ou encore macOS. Le clou du spectacle était évidemment Apple Intelligence, la grande incursion dans l'IA générative de l'entreprise qui ne sera pas disponible avant quelques temps en français. En attendant, on a de quoi s'amuser avec les premières bêtas. Les changements étaient assez marqués sur iOS qui a droit cette année à un écran d'accueil revu et plus personnalisable. iPadOS 18 hérite de son côté d'une nouvelle calculette plus efficace avec l'Apple Pencil, tandis que VisionOS écope de plusieurs nouveaux gestes et d'un environnement supplémentaire. De son côté, macOS s'enrichit de plusieurs fonds d'écran et d'une nouvelle fonctionnalité de recopie de l'iPhone. Que valent ces nouveaux systèmes? Que penser de la stratégie d'IA d'Apple? Autant de questions que nous allons aborder dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, le spécialiste iOS de la rédaction qui a fouillé de fond en comble ces nouvelles bêtas. Salut Nicolas.
Bonjour Félix, bonjour tout le monde.
Et je suis également avec Anthony qui s'est de son côté penché sur VisionOS 2 et qui va nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur macOS Sequoia. Salut Anthony.
Salut Félix, salut à tous.
Alors mine de rien, la liste des systèmes d'Apple commence à être longue, on va y aller dans l'ordre. Anthony, VisionOS 2, c'est un grand pas en avant pour le Vision Pro.
Il commence fort.
Non mais ouais, faut dire que les attentes à son sujet, elles étaient grandes. Il manquait pas mal de trucs quand même basiques sur VisionOS 1.
Ouais, on avait un peu la sensation qu'ils avaient bâclé le système dans la précipitation. Ouais, quoi. Ouais. Fallait sortir le casque et tant pis. Il manquait des choses aussi simples que l'affichage de l'heure. T'es dans ton casque et tu vois pas l'heure. Alors évidemment, des choses plus compliquées étaient pas là. J'aime bien le titre de mon article sur le sujet. Apple voit moins flou, mais pas encore clair. Ouais. Elle a réglé les problèmes les plus évidents parce qu'en 4 mois, tu peux faire que ça. Mais elle a pas eu le temps de s'attaquer à des problèmes plus fondamentaux. Ça faudra probablement attendre l'an prochain. Cela dit, le geste qu'ils ont ajouté, donc on peut ouvrir la main pour faire apparaître un bouton d'accueil qui ressemble un peu à l'ancien bouton d'accueil de l'iPhone, il est pas mal du tout, il est assez naturel. Et puis donc on peut renverser la main pour faire apparaître une sorte de centre de contrôle miniature, avec l'heure, incroyable, miracle de la technologie, avec le volume, incroyable, deuxième miracle de la technologie, ça marche pas mal. En ce moment, je me force à utiliser le casque pour pouvoir écrire sur le sujet, puisqu'il va bientôt sortir en France. Et finalement, je m'en sers surtout comme d'un écran externe pour mon Mac. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beau être un bon dactylo, le fait de ne pas avoir de vision périphérique me gêne parfois pour retrouver ma position sur le clavier. Nouveauté de VisionOS 2, justement, c'est qu'il laisse passer le clavier à travers les environnements, donc quand on est isolé dans une bulle en 3D. Ouais. Sauf qu'il ne reconnaît pas mon clavier, puisque j'utilise un clavier Kinesis, qui est un peu bizarre. Ouais. Ça marche bien avec un Magic Trackpad, ça marche bien avec un clavier mécanique relativement traditionnel. Avec un clavier un peu bizarre, ça ne marche pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, Apple a surtout communiqué sur la production de contenu. Ils ont notamment annoncé avant Blackmagic que Blackmagic allait faire une caméra, la Ursa Ciné immersive. Et avant Canon, que Canon allait faire un objectif stéréoscopique pour ses nouveaux appareils photo. Apple a mis des centaines de millions, voire des milliards maintenant, dans la production de contenu séries, films, et notamment sportifs aussi en 3D. Ils ont aussi beaucoup bossé sur la photographie spatiale cette année, où il y a des fonctions pour convertir les photos 2D en photos 3D. Oui, oui. On voit que pour eux, c'est vraiment un télécran de 3D, quoi, le Vision Pro, et c'est peut-être pas un hasard finalement qu'ils aient dit, bon, le Vision Pro 2, on va attendre, on va faire un truc moins cher, parce que finalement, si on arrive à être à 1500 balles le prix d'une bonne télé, là, ça devient intéressant.
Ouais. Hashtag Christophe avait raison.
Apple a ensuite enquillé sur iOS, qui était un des gros morceaux de ce keynote. La mise à jour apporte des changements pour l'écran d'accueil, ce qui n'arrive pas chaque année. Nicolas, t'as pu jouer un peu avec la première bêta? T'as passé toutes tes apps en jaune flashy?
Alors oui, je me suis sacrifié pour les lecteurs, hein, comme toujours. Je suis vite revenu, cela dit, à mes icônes normales et lisibles. Ouais. Bon, sinon, évidemment, la bêta, je l'utilise depuis le soir du keynote. Je vois même pas pourquoi tu poses la question. Donc ça doit faire une bonne semaine et demie, là, quand on enregistre. Donc voilà, je commence à bien avoir fait le tour et bah, je m'ennuie presque maintenant. Bah, comme tu disais, l'une des grosses nouveautés, c'est l'écran d'accueil. On peut enfin placer librement ces icônes, disons plus librement les icônes. Ça reste quand même assez contraint. Il y a toujours la grille de 4 par 6 hein, qu'il y a depuis le premier iPhone. C'était pas 4 par 6 à l'époque, mais bon, la grille est toujours là. On peut juste laisser des espaces vides entre les icônes. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que ça change pas mal de choses. Ça permet, par exemple, de placer toutes les icônes en bas, si on veut les rendre plus accessibles, hein, sur un iPhone, un grand iPhone, surtout les Macs, ça peut être pas mal. Ou alors, on peut imaginer mieux distinguer les groupes d'applications. Ça marche aussi avec les widgets. On peut placer les widgets du coup un peu plus librement. Et puis l'autre nouveauté, tu faisais allusion avec le jaune fluo, c'est qu'on peut modifier l'aspect des icônes. Donc là, il y a pas mal d'options différentes. La plus simple, c'est un mode sombre qui, par défaut, s'active automatiquement avec le système. Donc quand l'iPhone ou l'iPad est en mode sombre, les icônes, elles aussi. Mais le plus spectaculaire, c'est donc cette teinte qu'on peut appliquer à toutes les icônes et même à tous les widgets, partout, sur l'écran d'accueil, évidemment, toutes les pages de l'écran d'accueil, sur les widgets de la vue aujourd'hui, dans les bibliothèques d'app, vraiment partout, on a du jaune, du vert, du bleu.
Du violet.
Alors, du violet, effectivement. c'est, comment dire, particulier. voilà, c'est une question de goût. Hein. Je connais même un fan, au moins, dans l'équipe. Donc, ça existe. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup de mal après à distinguer les applications entre elles, surtout avec les icônes aujourd'hui, parce que donc, l'idée d'Apple, c'est de ne pas attendre que les développeurs s'impliquent. Toutes les icônes sont transformées, peu importe si ça rend bien ou pas, en quelque sorte. Donc, même si les développeurs pourront après fournir des icônes optimisées, et peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Ce que je trouve surtout dommage, moi, c'est qu'ils n'aient pas prévu de mécanisme pour automatiser l'activation, la désactivation de ce mode. Mmh. Par exemple, ça pourrait être sympa le soir d'avoir effectivement des icônes moins fortes et au plus homogènes. Mais en journée, je trouverais ça mieux de ne pas les avoir. Bref, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas les associer avec un mode de concentration. Il n'y a rien de ce côté.
Mmh. Ou même que ça soit lié à un fond d'écran, ça serait pas mal non plus.
Mmh. Par exemple, oui. Mmh. Mmh. Oui, surtout que maintenant, tu peux avoir des fonds d'écran qui se changent automatiquement. Donc, tu pourrais imaginer. C'est assez simple, en fait, aujourd'hui. C'est vraiment, tu choisis ta couleur et tu vois que c'est simple parce que c'est partout, tout le temps. Enfin, il n'y a pas vraiment de nuance, quoi. Mmh. L'autre nouveauté en termes d'interface dans iOS, c'est le centre de contrôle. Donc là, c'est pareil, c'est un peu la même idée en fait. On a toujours la grille, mais on peut espacer les éléments. On peut aussi les agrandir. On peut afficher donc certains boutons, ceux qu'on trouve le plus utile, on peut les mettre en plus gros. On peut aussi ajouter, enfin, il y a plus de contrôles qu'avant en réalité. Donc pour qu'on ait accès à tous ces contrôles, Apple a ajouté une sorte de galerie, enfin une galerie qui ressemble à celle qu'on avait pour les widgets. Apple elle-même a ajouté des éléments, par exemple il y a un contrôle pour la traduction, pour l'application traduire, il y en a une pour lancer des raccourcis, il y en a plein d'autres comme ça. Surtout la grosse nouveauté qui va arriver à l'automne, parce que pour l'instant on n'y a pas encore, c'est que les développeurs pourront ajouter leur propre contrôle. En conséquence de tous ces changements, on peut avoir maintenant plusieurs pages dans le centre de contrôle. Par défaut il y en a 3 ou 4, ça dépend de votre configuration, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, vous pouvez en revenir à une. Vraiment, il y a énormément de possibilités. Ça peut être aussi un peu le bazar. Il faut prendre un peu le temps. Moi, je me suis fait piéger avec ça, avoir un centre de contrôle complètement inutile parce que c'était tout le bazar. Il faut prendre le temps, mais c'est pas mal. Et en bonus, ils ont même permis de remplacer les boutons lampe torche et appareil photo sur l'écran verrouillé. On peut mettre n'importe quel contrôle qui provient du centre de contrôle. Donc ça, c'est quand même sympa. Et après, bon, ça, c'est deux éléments d'interface. Il y a énormément de nouveautés dans iOS. Hein. On ne peut pas toutes les citer ici. On en parlera un peu, peut-être d'autres dans la suite. Juste, je voulais peut-être mentionner Photo, parce que c'est une grosse mise à jour aussi. Mmh. Il y a une toute nouvelle interface, avec une page unique à la place des onglets comme avant, ce qui est assez spécial. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on s'y perd aussi. Mais bon, on verra avec le temps ce que ça donne.
On a ensuite fait un petit crochet par la maison avec des produits moins sensationnels mais tout de même importants pour Apple. Anthony, quoi de neuf pour les AirPods et l'Apple TV ?
J'aime bien comme tu m'as fié les pires produits du catalogue d'Apple. J'aimerais te dire qu'il y a plein de nouveautés pour l'Apple TV, mais d'abord ils n'ont pas annoncé grand-chose. Et le peu qu'ils ont annoncé n'est pas encore disponible dans la première bêta. Il n'y a même pas un truc aussi simple que le superbe économiseur d'écran Snoopy, que je vais allumer ma télé rien que pour ça. Cela dit, il y a une fonction qui est très importante et qui est là, c'est le fait qu'on peut enfin choisir un concentrateur HomeKit et pas laisser le système le faire à ta place. Ça résout un vieux problème qui obérait vachement la stabilité des réseaux domotiques. Maintenant, si tu as un HomePod en Wi-Fi ou un Apple TV en Ethernet, tu choisis l'Apple TV en Ethernet parce que ce sera bien plus stable comme ça. Dans la liste des nouveautés qui ne sont pas là mais qui finiront par l'être, il y a Insight qui ressemble pas mal à ce que fait Amazon, là où quand on met en pause, on a des informations sur les acteurs à l'écran ou sur la musique qu'on écoutait, c'est pas mal. On a l'activation automatique des sous-titres, notamment quand la langue qui est parlée n'est pas la même que celle de l'Apple TV ou quand quand on coupe le son. Apple qui essaye désespérément d'améliorer la clarté des dialogues. Petit conseil, si les gens de chez Apple nous écoutent, commencez par votre propre catalogue sur Apple TV+, par le mixer correctement, et ensuite, on pourra faire du machine learning pour que ce soit mieux. et puis on a au moins un collègue, je crois que c'est le même qui est fan des icônes qui ont plein de couleurs, qui attend avec impatience la compatibilité avec les projecteurs 21 neuvième. Les AirPods, c'est mieux. Les AirPods Pro récupèrent la fonction d'isolation de la voix pendant les appels, qui fonctionne pas mal. On sait que les AirPods et les AirPods Pro sont globalement de mauvais micros. Mmh. On peut passer un appel téléphonique avec des AirPods dans la rue, c'est mission impossible. L'isolation de la voix promet de régler ça. Ça marche pas mal. Je m'en suis notamment servi pendant le test du Sonos Ace. Ça bloque assez efficacement le voix et les autres bruits parasites. Ouais. Ça met un petit filtre métallique sur la voix, mais franchement, entre une voix métallique ou une voix qu'on n'entend pas, oui, je préfère la voix métallique. Les AirPods Pro vont aussi gagner un truc assez marrant, donc ça s'appelle les interactions avec Siri. Grosso modo, on peut hocher la tête comme si on allait dire oui ou non pour répondre aux notifications. Donc on a un appel téléphonique, on pourra répondre oui ou non de la tête. Pourquoi pas? Ouais. Je crois qu'on va découvrir qu'on bouge la tête beaucoup plus souvent que ce qu'on pense dans les prochains mois. Les AirPods 3, les AirPods Pro et les AirPods Max, il faut sortir les fiches de compatibilité, heureusement que j'ai des notes, eux récupèrent l'audio spatial personnalisé, okay. Puisqu'il y a visiblement des gens qui écoutent de la musique en audio spatial, et donc c'est porté, y compris sur ce vieux casque maintenant, qu'est l'AirPods Max.
Bon, bah je vais le garder encore quelques temps.
C'est ça, c'est une fonction qui veut dire qu'il ne sera pas remplacé tout de suite.
Oui. Apple a ensuite parlé de WatchOS. L'année dernière, on a eu droit à une grosse mise à jour, donc on n'en attendait pas grand-chose cette année, mais Apple a tout de même réussi à nous surprendre. Nicolas, c'est un grand changement, WatchOS 11 ?
Évidemment, parce qu'il y a un nouveau cadran photo. Oui, je peux avoir une photo de chat qui est sélectionnée automatiquement par système, différente à chaque fois que j'utilise ma montre. Donc ça, c'est génial.
Non, ouais, il est très chouette ce cadran. J'ai joué un petit peu avec, ouais, je l'ai trouvé bien sympa.
Oui, à part que des fois, il masque l'heure, ce que je trouve un concept étonnant. C'est comme sur les écrans verrouillés. Mmh. Oui, voilà. La montre est déjà pas très grande, mais ouais. Bon, ça reste très bien. Bon, sinon, il y a plein de petites choses. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de révolutionnaire, mais en cumulé, c'est vrai que ça commence à faire pas mal de nouveautés. L'application Traduire, par exemple, a été ajoutée. Ça peut être pratique pour des traductions orales, parce qu'on peut enregistrer son correspondant ou s'enregistrer soi un peu comme ça à la volée. Une autre grosse nouveauté attendue de longue date par certains utilisateurs, c'est de mettre en pause les cercles d'activité. Enfin, donc on pourra dire qu'on veut un break d'une journée ou d'une semaine, le temps de se reposer si on est blessé. Ou voilà. Jusque-là, bah, c'était fichu. Hein. Si tu arrêtais une seule fois, c'est mort. Ouais. À propos de sport, les entraînements maintenant sont associés à un niveau d'effort. Donc, à la fin d'un exercice, la montre suggère automatiquement un effort entre facile, modéré, difficile, etc. On peut ajuster la proposition selon son ressenti. Bon, j'ai testé une fois ou deux. Après, c'est difficile de juger sur si peu de temps, notamment parce qu'au bout d'un mois, on aura des tendances. Donc là, ça sera sans doute un peu plus utile.
Ouais.
Et puis, je trouve que l'autre difficulté, c'est d'un peu juger son effort. Des fois, c'est pas... Surtout que c'est assez fin comme réglage. Je sais plus, je crois il y a pas mal de niveaux, donc des fois entre moyen 1, moyen 2, moyen 3, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas évident, mais bon. Et il y a encore une autre nouvelle app qui s'appelle Signe Vito, qui doit résumer les données essentielles sur la santé. Alors ça a l'air bien comme ça, mais pour moi c'est une grosse déception, elle ne fonctionne que si on porte la montre toutes les nuits, puisque c'est à ce moment-là en fait qu'elle mesure justement ses valeurs, donc si comme moi c'est pas votre cas, en gros ça vous servira à rien d'avoir cette nouvelle app, voilà. Et puis, comme dans tous les autres systèmes, il y a plein de petites nouveautés. Moi, ce que j'aime bien, c'est les améliorations sur le défilement intelligent. C'est les widgets là, qu'on peut afficher à partir du cadran. Donc, il y en a plus maintenant. Et surtout, ils sont plus dynamiques. Donc, la priorité change plus. Un truc que j'ai noté, par exemple, c'est quand je lance la lecture d'un podcast sur mon iPhone, automatiquement, le widget correspondant s'affiche. Même si j'étais pas, si j'avais pas activé avant cette vue-là. Donc ça, c'est assez pratique parce que d'un coup, on a les contrôles au poignet sans avoir besoin d'ajouter une complication ou quoi. C'est assez bien fichu, ça.
Ouais. Anthony, Apple a aussi dédié un segment à iPadOS. On l'attendait de pied ferme vu que les iPad Pro M4 viennent de sortir et qu'Apple avait laissé miroiter des nouveautés pendant le keynote Let Loose. En tant que propriétaire d'un iPad Pro M1, est-ce que tu es content des annonces ?
Bon, écoute, j'attends plus rien de l'iPad, donc j'ai pas été déçu. Non, mais c'est vrai, quoi, quand on les voit passer 5 minutes sur l'application Calculette, tu te dis qu'ils ont baissé les bras quand même. Mais enfin, elle méritait quand même un article, cette application, ne serait-ce que parce qu'elle a aussi été refaite sur iPhone et sur Mac, et parce qu'elle tire parti du Pencil, pour une fonctionnalité assez intéressante de notes mathématiques. Je trouve quand même sympa de pouvoir griffonner une opération quand tu es en train d'écrire, et puis paf, le résultat apparaît magiquement. On peut même dessiner un graphe avec cette fonction. Hein. On peut poser une fonction et paf, le résultat apparaît. Bon courage à ceux qui sont en train de passer le bac. Donc pourquoi pas, je pense que les développeurs de Solver sont très contents d'avoir vu apparaître cette fonction dans iPadOS. Les autres fonctions sont à peu près aussi anecdotiques, mais en même temps pas complètement inintéressantes. Je pense à celle qui prétend corriger les défauts d'écriture manuscrite là, dans Notes. Moi ça me rappelle les fonctions, les outils de conversion des courbes de Bézier dans les vieilles versions d'Illustrator, c'est à peu près aussi convaincant. Le centre de contrôle qui est personnalisable comme sur l'iPhone, sauf que sur l'iPad, il occupe même pas un tiers de l'écran. Ouais. Donc, tu es aussi capable, tu es aussi obligé de défiler dans les pages. Hein. On a des iPads maintenant qui ont des écrans 13 pouces, mais on utilise à peine 3 pouces de diagonale pour le centre de contrôle, parce que pourquoi pas. Mais ça va bien finalement avec les autres nouveautés de l'interface. Cette année, Apple a vraiment baissé les bras, quoi, décidé qu'en fait, un iPad, c'était un grand iPhone. Donc, la barre d'onglet qui était en bas des applications maintenant, c'est une barre flottante qui est en haut de l'application. Donc, c'est vraiment ça. On prend une application iPhone, on l'agrandit et paf, c'est une application iPad. Ils nous ont quand même bassiné pendant des années sur l'importance de faire des applications desktop class, comme ils disaient, qui avaient vocation à être portées sur Mac. Et ben voilà, non, en fait. C'est un sacré recul. Safari, notamment, c'est ridicule. Un écran d'accueil de Safari sur iPad, sur un iPad 13 pouces. C'est sans la barre latérale, puis avec la barre latérale. Enfin, c'est ridicule. Finalement, les nouveautés les plus intéressantes, c'est celles sur lesquelles ils ont passé le moins de temps. Je pense notamment au partage d'écran avec SharePlay.
Ah oui.
Qui est peut-être la nouveauté qui m'a fait le plus remuer de tout le keynote, où on va enfin pouvoir assister sa vieille maman à distance, même griffonner sur l'écran de l'iPad pour lui dire c'est là qu'il faut appuyer, là. On va pouvoir dessiner une flèche. Et les scènes, j'ai appris que des gens utilisaient Freeform pour de vrai. avaient des documents genre compliqués dans Freeform et ils étaient super hypés par les scènes. Donc je mentionne les scènes dans Freeform parce que visiblement c'est important. Donc finalement super mise à jour. Non mais pas la transcription des enregistrements sonores dans notre. Enfin il y a tout un tas de petits machins comme ça qui finalement sont plus convaincants que la calculette ou que l'espèce de refonte générale de l'interface qui sont assez décevantes. Je pense que les gens qui attendaient le grand soir et qui attendaient d'avoir un truc à la macOS sur iPadOS, ils sont tombés de haut à la WWDC.
Je confirme. Nicolas, Apple a enfin lancé son propre gestionnaire de mots de passe pour iOS, iPadOS, VisionOS, macOS et même Windows. J'ai vu que tu avais écrit un long papier de plus de 18 000 signes sur le sujet. Ma question sera simple, est-ce que c'est concluant ?
J'ai l'impression que tu essaies de suggérer que mes articles sont trop longs, je comprends pas.
Non.
je pense que c'est concluant, j'ai envie de dire que c'est le plus gros enfin de l'année pour moi. Faut dire que j'utilise le Trusso iCloud à la place, je l'ai remplacé One Password par la solution d'Apple depuis un an, parce qu'il y a eu le partage l'an dernier, je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, mais depuis un an on peut partager des mots de passe avec qui on veut. Donc j'ai mis en place ça avec mon conjoint, on a pu remplacer One Password qu'on utilisait jusque là, et c'était très bien, sauf que devoir ouvrir les réglages à chaque fois pour accéder à ces mots de passe, c'est galère. C'est vrai qu'il y a un cas de figure, j'y ai même pas pensé, mais un lecteur en a parlé, c'est si tu as besoin d'une information dans tes mots de passe et que tu es déjà dans les réglages, ce qui peut arriver, notamment depuis iCloud. Bref, c'était un peu galère ce système. Donc l'application indépendante, moi ça me semblait une évidence, et heureusement qu'on l'a enfin. Concrètement, c'est une app assez simple, c'est une app en Swift UI, on reconnaît bien le design classique des apps modernes. Ça rappelle pas mal Rappel. Ça me fait penser à Rappel, notamment parce qu'il y a des catégories colorées dans la barre latérale ou en haut de l'écran principal avec les différentes sections. Voilà, ça, c'est bien. Ça reste globalement pareil qu'avant. Hein, en fait, il n'y a pas beaucoup plus de changements. C'est plus pratique. Ils ont, grâce à l'application séparée, ils ont ajouté quelques éléments, notamment les codes Wi-Fi qui se retrouvent ici. Ça peut être pratique. Après, ce n'est pas un gestionnaire de mots de passe complet, aussi complet que les concurrents, ce n'est toujours pas le cas. J'espère que l'application va leur permettre de continuer des mises à jour, enfin de lui offrir des mises à jour régulières. Typiquement, les notes sécurisées, ça serait quand même bien pratique. Surtout que l'ancien, non, il est toujours là, mais le trousseau d'accès historique a des notes sécurisées. Donc je ne comprends pas trop pourquoi le gestionnaire de mots de passe officiel maintenant ne l'aurait pas. Ils ont amélioré des petits trucs. Alors, c'est vraiment des points de détail, mais des éléments qui étaient un peu pénibles par rapport à ce qu'on avait avant. Donc on peut mettre en fait plusieurs sites web sur une même fiche. Donc si on a des noms de domaine différents pour un même mot de passe, ça c'est bien pratique. Et à l'inverse, on peut créer une fiche sans site web. Ça c'est surtout utile pour les apps qui n'ont pas toujours un site. Et jusque-là, bah, moi ça m'était arrivé plusieurs fois d'avoir des mots de passe avec un site web fictif où je mettais un nom de domaine au pif pour pouvoir créer le mot de passe. Donc voilà, des petits trucs comme ça où voilà, c'est mieux. Et effectivement, comme tu dis, il y a une application aussi pour Windows. Alors après, faudrait pas se tromper là-dessus. Si vous n'êtes pas entièrement dans l'écosystème Apple, c'est pas non plus la meilleure option. Il y a rien pour Android toujours. Il y a des extensions pour les principaux navigateurs, mais globalement, c'est bien uniquement si vous utilisez Safari. Enfin voilà, faut des produits Apple, faut utiliser la solution d'Apple. Et dans ce cas, moi, je pense que c'est bien. Mais...
Enfin, on a eu l'occasion de découvrir macOS Sequoia, le tout nouveau système pour Mac. Anthony, t'en as pensé quoi ? Faut bien admettre qu'on n'a pas eu de grosses surprises, mais il y a tout de même quelques modifications intéressantes sous le capot.
Écoute, après 2 années de vaches maigres, qui nous ont même convaincus avec Nicolas d'arrêter d'écrire des livres, c'est pas si pire. Et si on a arrêté d'écrire des livres, c'est uniquement à cause d'Apple. C'est pas du tout parce qu'on est fatigué, qu'on est vieux et qu'on veut prendre des vacances. Non, c'est pas si pire. Il y a quand même des nouveaux fonds d'écran qui mettent à l'honneur les créations de Suzanne Kerr. Donc c'est tout. Ça justifie la mise à jour. Question suivante. Non, blague à part. Apple continue de travailler sur la gestion des fenêtres. Je crois que c'est une bonne nouvelle. On a eu les fenêtres magnétiques dans macOS Sierra, c'est tellement discret que personne sait que ça existe, c'est toujours la révélation quand je montre, tiens regarde, tes fenêtres quand tu les approches elles se collent. On a eu Stage Manager dans macOS Ventura, c'est tellement différent que personne s'en sert parce que c'est trop différent.
Alors je m'en sers moi.
Oui, non, mais moi aussi, je m'en sers en vrai. Même dans un podcast, on prétend, Nicolas. On a maintenant un système de pseudo-tiling qui rappelle beaucoup la fonctionnalité Snap de Windows. Donc, on peut prendre une fenêtre, la balancer en haut de l'écran pour qu'elle prenne tout l'écran, à gauche ou à droite de l'écran pour qu'elle prenne une moitié de l'écran, ou dans le coin de l'écran pour qu'elle prenne le quart de l'écran. Y a aussi un système d'organisation. Donc, si on a plusieurs fenêtres à l'écran, on peut passer le curseur sur le bouton vert ou passer par le menu fenêtre pour choisir des arrangements. Donc, par exemple, une fenêtre qui prend la moitié de l'écran à gauche ou à droite et puis 2 fenêtres qui se partagent les 2 quarts restants. Je dis pseudo-tiling parce que ça ne fonctionne pas exactement comme les systèmes de tiling habituels, notamment sur Linux, qui sont des systèmes dynamiques. Donc, où à chaque fois qu'on ouvre une application, ça ajoute une dalle dans le carrelage, quoi. D'accord. Et où les fenêtres se redimensionnent. Là, c'est vraiment... les fenêtres, en fait, ne savent pas leur position à l'écran et ne savent pas la position des autres fenêtres à l'écran. Donc, elles ne peuvent pas répondre au changement. Ça ne tuera pas les gestionnaires de fenêtres. D'abord, parce que les raccourcis sont imbitables et même si on peut les personnaliser... compliqué. Et parce qu'il manque des choses comme le redimensionnement par tiers ou par sixième, qui sur un grand écran comme l'écran de Nicolas, c'est quand même pas complètement inutile. C'est un système qui s'intègre très mal à Stage Manager et qui s'intègre pas du tout aux espaces virtuels d'exposé. Donc, même chose. Je pense notamment à ce que fait Moom ou à ce que fait Magnet, la possibilité d'enregistrer des jeux d'applications qui ont une position fixe à l'écran. Ça paraît, c'est pas quelque chose. Donc un peu comme l'application mot de passe qui, quelque part, fait 75% du boulot et donc elle suffit à beaucoup de monde, et pour les 25% restants, il faut une app, bah c'est pareil. Ça couvre beaucoup, beaucoup d'usages. Je pense que pour moi, par exemple, ça va résoudre le problème. Mais il reste une petite fraction de gens qui vont avoir besoin d'une application plus compliquée que ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça va être assez évident pour les switchers parce que ça fonctionne comme Snap sur Windows. Donc, ils vont essayer le geste, ça va marcher. Je pense que pour les gens qui sont sur Mac depuis longtemps, c'est assez facile à découvrir parce que bah, en glissant la fenêtre, ça se voit. En passant le curseur sur le bouton vert des fenêtres, ça se voit. C'est pas la fin de l'histoire, parce que je pense qu'il va falloir qu'ils continuent à bosser sur cette fonction. Mais j'apprécie beaucoup qu'il y ait encore des gens chez Apple pour bosser sur des aspects fondamentaux absolument pas sexy, la gestion des fenêtres. Mais qui au quotidien sont quand même sacrément utiles quoi, sur macOS, le système qui a des fenêtres. Que dire d'autre sur Sequoia ? La mise à jour annuelle de Safari est beaucoup moins importante que prévu. Apple a complètement reculé, notamment sur son plan de blocage des publicités, puisqu'elle a l'industrie contre elle, donc elle a dit non, on va s'éviter un problème supplémentaire. Ouais. Les petits raffinements qui ont été apportés au mode lecteur sont assez bienvenus, notamment l'application de la logique du mode lecteur aux vidéos, la possibilité de vider le reste de la page et d'avoir juste la vidéo. C'est quand même assez sympathique. Une fois qu'on a parlé de ça, on a quand même quasiment fait le tour, ce qui est un peu embêtant. Il ne reste pas grand-chose d'autre que la recopie de l'iPhone. On peut littéralement afficher l'écran de son iPhone sur son Mac et s'en servir avec une souris. C'est un peu ridicule. Mais je suppose que ça évite aux vieux cons qui utilisent encore un Mac d'aller chercher leur iPhone dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas trop à qui d'autre ça va servir, parce que soyons sérieux, tout le monde a quand même son iPhone à portée de la main en permanence. Et puis j'angoisse déjà que les notifications de mon iPhone puissent être mélangées avec les notifications de mon Mac, puisque c'est l'autre fonction qui vient avec la recopie, mais pourquoi pas. Et évidemment, ça bénéficie de la quasi-totalité des nouveautés d'iOS et d'iPadOS. Alors, pas le changement des couleurs des icônes, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais l'application mot de passe, les choses dont j'ai parlé dans Freeform, puisque visiblement, il faut parler de Freeform. L'application calculette, tout ça, quoi. Ouais.
Le clou du spectacle était évidemment Apple Intelligence, l'IA selon Apple. Cupertino était attendu sur ce point-là depuis la sortie de ChatGPT à la fin 2022. Anthony, c'est quoi exactement Apple Intelligence ?
T'as 2 heures ? Pour faire très simple, c'est un jeu de modèles qui a été entraîné par Apple, notamment un LLM pour la génération de texte et un modèle de diffusion pour la génération d'images. Je dis notamment parce qu'il y a d'autres modèles, il y a notamment un LLM qui est spécifique à Xcode, et il y a d'autres petits modèles spécifiques. Et donc tous ces modèles-là sont intégrés au système eux-mêmes, c'est pas sur des serveurs, c'est dans l'OS lui-même. Ils sont exécutés localement, et comme ils sont exécutés localement, il faut quand même une grande puissance de calcul et pas mal de mémoire. Donc c'est réservé à l'iPhone 15 Pro et au Mac à puce Apple Silicon. Le modèle qui est spécifique à Xcode, il faut même 16 gigas de mémoire, donc les gens qui codent sur une machine avec 8 gigas de RAM, oups. Ces modèles seront utilisés pour tout un tas de petites fonctionnalités, trier les notifications et les courriers électroniques, résumer ou reformuler du texte, transcrire les appels téléphoniques, générer des illustrations ou des emojis personnalisés. Apple, finalement, nous fait l'économie d'un chatbot. C'est tant mieux. C'est définitivement pas la bonne interface. On a abandonné la ligne de commande pour une bonne raison. C'est quand même bête d'y revenir. Elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire des interfaces graphiques. Bienvenue en 1984. Même la génération d'images utilise des bulles et des boutons pour préciser les critères. C'est pas juste un champ de texte dans lequel on compose des incantations. Ouais. Il y a une interface graphique pour créer des images. Il a quand même fallu attendre 3 ou 4 ans que quelqu'un se penche là-dessus et se dise que peut-être que la ligne de commande, c'était pas ce qu'on pouvait faire de mieux. Évidemment, tout ça infuse dans Siri. Je suis d'ailleurs très étonné qu'ils aient pas changé le nom, qu'ils aient décidé de se garder cette casserole Siri, là. Non, elle s'appelle Siri, toujours. Qui devrait mieux comprendre le langage naturel, on devrait pouvoir bafouiller et Siri comprend quand même. Et surtout conserver le contexte au fil des requêtes. Ouais. On peut enchaîner plusieurs requêtes, et comme on a un LLM derrière et qu'il y a un peu de mémoire qui est allouée, Siri devrait se souvenir au fil des requêtes du contexte, c'est quand même sympa. Apple insiste d'ailleurs beaucoup sur le fait que comme on est en local, ces modèles tirent parti du contexte personnel. En fait, ça puise dans les informations de l'utilisateur, hein, on est en local, on a le modèle de sécurité d'iOS, donc on peut aller chercher des données privées et on s'adapte aux besoins de l'utilisateur, alors que les autres modèles finalement, si on pense à ceux de Google ou à ceux d'OpenAI, ils ont une connaissance du monde, ils ont pris tout Internet, mais ils savent pas qui vous êtes. fait. Ouais. Donc c'est quelque part l'inverse, complètement l'inverse. Ça a l'inconvénient de son avantage, c'est que il faut que ça tourne en local. Donc potentiellement ça peut être lent ou ça peut être imprécis. Ces modèles ils sont quand même très réduits, c'est pas des modèles très étendus et donc très précis. Et ça sert à rien du monde extérieur. Pour résoudre le premier écueil, il faut tout faire en local. Apple a construit une nouvelle infrastructure qui s'appelle Private Cloud Compute. Il y a quelqu'un qui s'est endormi au marketing là, qui est formé de milliers de serveurs qui sont puissants, donc qui peuvent faire tourner un autre modèle qui est beaucoup plus complexe, qui se compare assez favorablement à GPT-4 Turbo, donc on est quand même sur des choses qui sont assez musclées. Comme ces serveurs utilisent une puce Apple Silicon, hein, c'est des Mac, pas exactement des Mac, mais c'est des machines qui peuvent être comparées à des Mac, ils ont les mêmes protections matérielles que votre iPhone ou votre Mac. Il y a une bonne dose de logiciels par-dessus pour assurer la sécurité des communications. Donc Apple, quelque part, considère que ces serveurs, c'est comme une extension de votre iPhone ou de votre Mac, et qu'il y a le même niveau de sécurité, et donc que ces serveurs peuvent traiter vos données personnelles. C'est la première fois qu'Apple dit. Vos données privées, elles sont pas seulement sur votre iPhone en local, elles peuvent aller sur les serveurs parce que les serveurs ont le même niveau de sécurité. C'est nouveau chez Apple, ça fait des années et des années et des années qu'on n'envoyait plus rien en ligne chez Apple, et là on se remet à le faire. Je résume très très grossièrement, Félix mettra le lien vers mon papier sur le sujet dans la description pour expliquer en détail, mais donc ça quelque part ça résout le premier écueil qui est de temps en temps c'est quand même bien d'avoir un serveur qui peut faire tourner un plus gros modèle. Et donc il y a toute une infra de sécurité pour faire en sorte que ça puisse traiter de la donnée privée. Pour résoudre le deuxième écueil qui est le fait que quelque part Apple n'a pas essayé d'absorber le web, même si elle le fait avec AppleBot depuis 10 ans, pour avoir une connaissance parfaite du monde extérieur. Elle a prévu qu'on puisse intégrer d'autres LLM sous la forme quelque part d'extensions, de modules, de pièces qui peuvent comme ça venir se connecter à Apple Intelligence. Ce qui nous amène à ta question sur ChatGPT.
Du coup Apple a signé un contrat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à iOS. Qu'est-ce que t'en penses de ce truc-là ? Moi, j'étais assez surpris quand même.
je suis pas connu pour être le plus grand amateur des LLM en général et d'OpenAI en particulier, donc forcément. Cela dit, ils ont l'air d'avoir fait le taf. Apple ne renvoie vers ChatGPT que si elle peut pas donner la réponse. J'ai écrit sur le sujet parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais articles qui ont été publiés. Apple un moteur qui s'appelle, un robot qui s'appelle AppleBot, qui parcourt le web depuis 10 ans, qui depuis 3 ou 4 ans le parcourt de manière très intensive. Donc ils ont quand même une connaissance du monde extérieur. Tu demandes la hauteur de la tour Eiffel, Siri va être capable de te répondre. Mais où pour certaines requêtes qui vont être plus complexes, un des exemples qu'Apple donne, je crois que c'est planifier des vacances, quoi. Là, il redirige vers ChatGPT, mais c'est quelque part, c'est une suggestion. L'utilisateur est libre de dire non, je veux pas que tu m'emmènes vers ChatGPT. Même chose pour la reformulation de texte. Par défaut, ça utilise le modèle d'Apple, mais on peut en un bouton basculer sur le modèle d'OpenAI. Donc c'est uniquement sous le contrôle de l'utilisateur avec une session anonyme. Donc il n'y a pas de conservation de l'adresse IP, il n'y a pas besoin de créer un compte, même si GPT Plus est intégré, enfin on peut se connecter à son compte ChatGPT, auquel cas on est identifié. Quoi. Et la fenêtre des résultats possède même un petit avertissement disant « Ah, gaffe !» potentiellement d'un problème de fiabilité, la fameuse question des hallucinations. Donc je trouve que ça encadre bien le débat, c'est là. Mais en même temps, c'est sous le contrôle de l'utilisateur. Cela étant dit, j'ai aussi écrit sur le sujet, les termes de l'accord entre les deux entreprises montrent bien que c'est un pari faustien. Apple, quelque part, avait besoin d'OpenAI pour rassurer les investisseurs, la petite musique de « ils sont en retard, ils sont en retard, ils sont en retard ». Et pour rassurer ses arrières, quelque part, c'est « on peut pas tout faire, donc si ça coince, il faut quand même qu'on puisse donner une réponse à l'utilisateur, donc on va utiliser ChatGPT ». Et puis OpenAI, même si les requêtes sont anonymisées, ils vont pouvoir bénéficier des requêtes qui proviennent des appareils Apple pour affiner les modèles. C'est un peu le même genre de pari qu'avec Google, pour le moteur de recherche. Oui. Si Google paie 20 milliards de dollars par an à Apple, c'est pas pour rien, quoi. C'est précieux de pouvoir aller récupérer les données, même anonymisées, des gens qui ont un iPhone ou un Mac, parce que on est des gens supérieurs. avec du fric et on le dépense. Et donc on est. Quand OpenAI a présenté son application de ChatGPT Desktop, ils l'ont pas lancé sur Windows d'abord. Ils l'ont lancé sur Mac en disant c'est parce que c'est là où les utilisateurs sont. Ouais. Donc ça montre bien l'enjeu pour les deux boîtes. Apple a besoin quelque part de l'image de marque de ChatGPT et OpenAI a besoin des datas d'Apple. C'est anonymisé tout ça, mais enfin c'est quand même un petit coup de canif dans les engagements d'Apple en matière de vie privée et de confidentialité. Hein, c'est bon. En fait, quand il y a de l'argent et de la réputation en jeu, les datas des users, je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner si Apple incorpore effectivement d'autres LLM. Ouais. Ils ont notamment mentionné Gemini de Google. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, ça reste, est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont vraiment faire, est-ce que s'ils le font ils sont aussi capables de proposer par exemple des modèles open source, je pense à Mistral ou à Falcon, Mistral qui est très populaire en France, Falcon qui est très populaire ailleurs, et pourquoi pas les faire tourner sur ses propres serveurs. Ça ce sera vraiment intéressant parce que quelque part Apple pourrait être une sorte de Suisse de l'IA. Qui utiliserait ses propres modèles pour proposer des fonctionnalités qui sont vraiment productivisées, quoi. Encore une fois, moi je suis très intéressé par le fait que c'est pas un chatbot, c'est des fonctions qui servent à quelque chose, c'est pas juste je tape des lignes de commande dans le terminal et je sais pas à quoi ça sert. Non, il y a une interface graphique et c'est vraiment au service de quelque chose, quoi. Donc même si je suis pas un grand fan de toutes ces technologies, je dois bien dire que je vais m'en servir parce qu'elles sont là et qu'elles sont correctement intégrées et qu'elles servent à quelque chose, quoi. Donc ça, je pense qu'il s'ils peuvent continuer dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant, mais en même temps, quelque part, proposer toute une série d'autres modèles pour des usages plus génériques et moins anglais, quoi. C'est-à-dire, si j'ai envie d'utiliser le terminal, c'est un peu comme macOS, finalement, où j'ai l'interface graphique, mais si j'ai besoin du terminal, j'ai le terminal, avec toute la puissance d'Unix, comme il répète depuis 25 ans. Et donc là, ça pourrait être la même chose, quoi. C'est Apple Intelligence avec toute la puissance d'OpenAI, de Gemini, de Mistral, de Falcon, de tout ce que tu veux derrière, quoi. Ouais. Ça pourrait vraiment être sympa. En tout cas, ce serait plus intéressant que de simplement coller ChatGPT dans une barre latérale, comme l'a fait Microsoft.
Nicolas, tu penses qu'Apple a bien joué ses cartes dans le domaine de l'IA ? T'es curieux, toi, par rapport à ces fonctionnalités ?
Oui, je pense que, comme le disait Anthony, ils ont proposé quelque chose d'intéressant. Ils font le maximum localement, directement sur les appareils. Donc ça, c'est très bien pour la vie privée, et puis surtout, les performances. On verra ce que ça donne, mais en théorie. Bon, même si, effectivement, ça veut dire que, surtout côté iPhone, en gros, il n'y a que les iPhone 15 Pro, 15 Pro Max qui sont compatibles aujourd'hui, donc ça fait quand même pas grand monde qui va en profiter au départ. Et même quand ils doivent utiliser des serveurs, parce que ça arrive, comme le disait Anthony aussi, ils le font de manière différente de tout ce qu'on a vu jusque-là, avec leur propre matériel, qui tourne grâce à leur propre logiciel, et avec des garanties qu'on n'avait jamais vues en termes notamment de gestion des données privées.
Et Maline, c'est un peu compliqué vocalement comme ça d'expliquer comment marche leur système, donc d'orchestration qui est, je choisis entre est-ce que je fais en local, est-ce que je fais à distance, est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je fais avec ChatGPT.
Et pour l'utilisateur, c'est transparent.
Où ils ont un seul modèle et ils ont un système de connecteur où quand on est dans mail, c'est pas pareil que quand on est dans message, c'est pas pareil que quand on trie des notifications, mais à la fin, c'est le même modèle. Tout ça, c'est des choses qui, c'est pas, ça montre d'abord qu'ils sont pas du tout en retard et c'est très très malin, quoi. C'est une approche qui est complètement novatrice, donc ils ont vraiment fait le taf, quoi.
Tout à fait. Et puis comme tu le disais aussi, le niveau d'intégration qu'ils ont présenté dans leur système, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusque là. C'est vrai que par exemple la possibilité de sectionner du texte n'importe où, pas juste dans les apps qui vont être mises à jour, mais vraiment toutes les apps où il y a un champ de texte standard, on pourra sectionner du texte et utiliser Apple Intelligence alors pour soit résumer, soit modifier la forme, soit agrandir ou réduire le texte comme on veut. Ça, c'est vrai que c'est vraiment mieux que ce qu'on a vu par ailleurs, et c'est très dans l'esprit, ça ressemble vraiment à ce qu'Apple fait, quoi. Ils ont pris le problème du point de vue vraiment de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut faire, plutôt que de dire on a effectivement un champ de texte quelque part où on peut saisir quelque chose. Donc vraiment sur le plan technique et en théorie, on peut dire que ils ont l'air. On dit à chaque fois ils ont l'air, ils semblent, etc. Parce que faut quand même rappeler que ça n'existe pas aujourd'hui, Apple Intelligence. Donc, ça existe en théorie, mais personne n'a pu le tester, pas même les gens qui étaient invités à la WWDC. C'est vrai qu'ils ont fait des pseudo démonstrations, mais en gros c'est vraiment ce qu'on a vu pendant le keynote, quoi. On ne sait pas plus. Voilà. Donc après, on verra ce que ça donne quand ça sortira. Faut peut-être rappeler, c'est censé être en bêta uniquement en anglais à partir de cet été pour les développeurs, pour tout le monde à partir de l'automne, mais toujours uniquement en anglais américain. Les extensions à d'autres langues, etc., c'est prévu, mais on ne sait pas quand, et on parle plutôt de 2025, donc il ne faut pas trop être pressé. Après, à titre personnel, puisque tu m'as demandé si j'étais curieux, moi je suis assez sceptique, j'utilise pas du tout les IA génératives aujourd'hui, enfin très très peu. je suis quand même curieux de tester parce que c'est Apple, ils ont fait les choses différemment, etc. Enfin voilà, puis de toute façon ça sera dans le système, donc autant essayer. Ouais. Mais je pense pas que ça me sera utile. Déjà j'aime bien écrire, hein, c'est quand même pour ça que je fais ce métier à la base. Donc j'ai pas tellement envie de dire tiens écris-moi un truc ou même modifie ce que j'ai fait. Je verrai peut-être ce que ça donne, mais je suis un peu sceptique sur l'intérêt. Résumé du contenu, ça c'est intriguant dans certains cas. Après,
surtout pour toi.
Le problème qui me pose, c'est qu'il faut que le résumé soit factuel.
Ouais.
Et ça, c'est pas gagné parce que quand même, Tim Cook lui-même a reconnu en interview qu'il pouvait pas assurer à 100% que ce que leur modèle, leur propre modèle, hein, pas ChatGPT, mais leur propre modèle allait donner serait véridique. Donc on dit bon. Même s'ils sont censés avoir mis des garde-fous, même si machin, peut-être que ça sera mieux que la moyenne. Mais quand même, si on fait un résumé, si on demande un résumé et que le résumé est faux, si derrière il faut vérifier, en gros, qu'est-ce qu'on a gagné comme temps, je suis pas convaincu là-dessus. Après, donc l'autre aspect, c'est la génération des. Enfin, il y a d'autres choses, par exemple, le tri dans le mail, ça c'est très intéressant, effectivement, faut voir si ça marche bien.
Ouais.
C'est quelque chose que Google notamment fait depuis longtemps, donc bon, voilà, c'est pas non plus. Et l'autre aspect sur la partie générative, c'est les images, l'autre gros aspect. Donc là, par contre, moi, je suis nul en dessin, donc, contrairement à l'écriture, donc ça m'intéresse peut-être, mais je trouve que tous les exemples qu'ils ont montrés pendant le keynote, c'était quand même très moche.
Ouais.
Ça se voyait de très très loin que c'était généré. Je pense que c'est des modèles qui sont, comme ils tournent en local, etc., on voit qu'il y a quand même une différence avec les derniers qui tournent pas sur des serveurs, quoi. Donc, est-ce que je pourrais les utiliser au quotidien? Je suis pas trop convaincu, peut-être pour des accroches d'articles de temps en temps, mais même là, je suis pas sûr. On verra, mais j'ai l'impression que c'est quand même très, très typé quoi, comme dessin. À la limite, le plus intéressant dans ce domaine, c'est les Genmoji, donc les emojis générés automatiquement. Ça, c'est l'air rigolo. Après, bon, voilà, est-ce qu'on va, on va s'amuser à créer des Genmoji? Enfin, je sais pas, on verra, mais c'est un peu niche. Quoi, comme,
oui, non, mais pour faire des GIFs dans Message, ce sera très bien. Quoi.
Oui.
Oui, voilà, oui, mais oui, oui. Non, oui. Et puis, l'autre volet, quand même, c'est Siri, hein, faut quand même le rappeler, qui doit bénéficier à terme d'Apple Intelligence. Alors, je suis pas un gros utilisateur de Siri aujourd'hui non plus. J'utilise en gros pour des minuteurs, c'est à peu près tout. Hein. Même les rappels, j'ai arrêté parce que une fois sur deux, le texte du rappel n'a rien à voir avec ce que tu as dit et tu comprends pas, enfin, tu ne sais plus ce que tu voulais dire. Enfin, bref.
Ouais.
Mais bon, voilà, si j'utilise pas Siri aujourd'hui, c'est parce qu'il est pas très utile, on va dire. Donc, faut voir s'il devient plus malin, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Surtout, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est la partie automatisation, entre guillemets. En tout cas, la Siri devra être capable d'agir dans des applications. On peut lui dire, fais ci, fais ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qui va arriver plus tard, alors, comme plein de trucs, donc on ne sait pas exactement ce que ça vaut. Surtout au début, ça risque de fonctionner que dans les apps d'Apple. J'ai l'impression que ça va être un peu limité au début, mais on verra. Et
cette fonction-là, ce qui est intéressant, la plupart des objets, parce que ça a souvent été des objets, je pense notamment au truc de Humane ou au R1 de Rabbit, qui ont un agent qui utilise des applications en ton nom, c'est des choses qui utilisent des applications d'automatisation qui sont notamment, enfin des systèmes d'automatisation qui sont notamment employés dans le cadre professionnel, je pense notamment aux hôpitaux qui ont encore des PC Windows 95, et en fait c'est les infirmiers, les médecins utilisent des machines récentes, et derrière il y a un vieux serveur NT quelque part, et il y a une couche entre les deux intermédiaires. Quand Rabbit disait on contrôle Spotify, c'était littéralement ça, hein, c'était en fait une couche intermédiaire qui était programmée pour contrôler Spotify. Là, Apple fait pas ça. Apple, quand dit Siri utilisera une application, ils utilisent en fait les App Intents, qui est un truc sur lequel Nicolas et moi on écrit depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans.
C'est la fondation de Raccourci notamment.
Ouais, ouais. Et puis de 5 ou 6 ans, j'écris la même chose qui est regardez, les développeurs deviennent producteurs d'intentions, producteurs d'actions que le système peut empiler lui-même et qu'on commence à voir le retour de vieux concepts comme OpenDoc. Moi, j'ai toujours la vidéo du Knowledge Navigator en tête. Je peux rien écrire sur la technologie sans avoir cette vidéo en tête, et on y est, hein, avec le nouveau Siri. En théorie. Il manque juste l'acteur qui te répond avec un vrai visage et qui envoie ta mère directement vers le répondeur, en théorie. Mais c'est intéressant, quoi, parce qu'on est vraiment à un point où ça fait 5 ans qu'Apple dit aux devs on va atomiser le concept d'application, et ça y est, on y est, quoi.
Ouais.
Où Siri va complètement casser le concept d'application, quoi. La démo qu'ils ont fait avec la fille qui prépare un voyage, une réservation d'assaut, enfin, c'est ça, hein. On vient piocher dans les apps et on n'a jamais ouvert une app. Moi, je serais un développeur, là, je me poserais quand même des questions.
Ouais.
Le truc moi qui me rend le, qui m'intéresse le plus en fait dans Apple Intelligence, c'est un peu bête, mais c'est la possibilité de supprimer des éléments dans les photos.
Oui.
Parce que ça, si ça marche bien, apparemment, d'après ce qu'on a, d'après les retours qu'on a entendus, ça marche mieux même que ce que fait Google. C'est plus subtil, en tout cas, comme, comme travail. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir. Voilà. Ça pourrait être sympa.
Ça va être dur de résister. Hein. Philosophiquement, contre, mais ça va être dur de résister. Hein.
Moi, j'utilise déjà pas mal, alors surtout pour supprimer des trucs genre poussière et machin sur les photos qu'on fait dans les articles. Mais c'est vrai que c'est, si ça marche vraiment bien, ça peut être, ça peut être un plus. On verra.
Eh bien, merci à vous deux pour ce débrief. Les bêtas devraient continuer de tomber tout au long de l'été, et ce jusqu'au début septembre avant de sortir en parallèle de la nouvelle gamme d'iPhone. Nicolas, à bientôt.
À bientôt.
Anthony, merci d'être venu.
Salut.
Et nous, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Bye bye.